وحسين. مايا وحسين une émission présentée par عبد القادر بن دعماش et يوسف طويبية. مايا وحسين tous les mercredis de 22h à minuit. مايا وحسين réalisé par Amin Louli.
Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec un énorme plaisir qu'on vous retrouve, mon ami et collègue Youssef Touaibia, sur le plateau de Mayo Hassine pour vous entretenir de ce fonds patrimonial qui constitue la musique classique algérienne dite andalouse. Nous avons ce soir planté notre décor dans un studio de la radio algérienne et nous avons concocté un thème qui va très certainement vous intéresser. Blida, la ville des roses, la ville de Sidi Hamid El Kbir, fondée au XVIe siècle, sera à l'honneur ce soir dans notre émission. Oui, en effet, il s'agit de cette cité culturelle par excellence qui a enfanté plusieurs générations d'artistes depuis au moins le début du siècle dernier qu'on va mettre sur notre plateau ce soir dans la musique classique algérienne dite andalouse. Et pour aborder tout ça, on a invité mon ami Youssef Touaibia et moi-même, Mohamed Belharbi, qui est un spécialiste dans ce domaine, dans la musique classique andalouse et d'une manière générale dans l'histoire de la musique citadine d'une façon générale. Marhaba bik,
merci beaucoup.
Bienvenue sur le plateau de Meyer Hassine, Mohamed Belharbi.
Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir. Notre invité, l'armée.
Merci beaucoup.
Alors, notre sujet, il est tellement évident que je ne peux pas le présenter. Ce soir, quand on parle de musique andalouse, on parle de Blida, on parle immédiatement de Tamam El Aajour.
Évidemment.
D'accord. Donc, on a voulu le mettre à l'honneur ce soir pour nous installer à Blida, pour nous installer carrément en Algérie, puisque c'est un grand maître qui a pratiquement dominé tous les autres interprètes depuis tout le siècle, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. D'ailleurs, on va se rendre compte, dans cette émission, quelle est cette particularité de ce grand maître, l'Irmo. On peut dire deux mots, Mohamed?
Oui, effectivement, c'était un monsieur d'une grande... Il avait la façon de chanter qui était particulière, et personne n'a pu, jusqu'à aujourd'hui, imiter sa voix.
C'est ça. Il y a eu beaucoup de tentatives.
Oui, oui.
Tentatives, par exemple, celle de Cheikh Mohamed El-Basri.
Ça est tout à fait. Il
a essayé de faire la même chose. Oui. Mm-hmm. Mais il est resté quand même d'un niveau hakdek, pas tout à fait d'Ahmed Blanchard.
Oui,
parce qu'on ne peut pas. On veut pas,
il est inégalé. Impossible de l'imiter.
D'Ahmed Blanchard qui constitue une école.
C'est lui l'école.
Oui, oui,
voilà,
oui.
Il a su imprimer ou présenter un nouveau style dans l'interprétation qui est propre à lui. Il n'a que des imitateurs, peut-être de pâles imitateurs aussi.
Oui.
Youssef, il est allé directement.
Non, mais ce qui est curieux et fantastique en même temps, c'est que plusieurs musiciens, interprètes, se réclament de Tamam El Aajour comme étant des élèves, alors qu'ils ne l'ont jamais connu. Ce n'est qu'à travers les cassettes et les enregistrements.
C'est ça, des élèves indirects, comme dirait.
Indirects, c'est pour dire cette puissance et cette aura qu'avait Tamam El Aajour.
Et quand on le voit comme ça, il est statique. C'est un personnage, un artiste statique. Mais quand on l'écoute, on dit qu'il fait des gestes, la voix qui monte, sa tête qui monte et qui descend, etc. Non,
il était justement dans les canaux de l'interprétation de musiciens arabes qui devaient tenir sa place sur la scène, ne pas faire de gestes superflus ou en plus, garder la même posture et toujours la même expression.
C'est ça. Et parfois, il n'ouvre même pas la bouche. Il chante sans ouvrir la bouche.
C'est une technique vocale.
Propre à lui.
Ouais. Et pourtant, il reste le numéro un. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que les musiciens arabes de l'époque ont inventé la posture aigu sur le genou, le violon sur le genou, pour pouvoir chanter.
Exactement. Ça vient de toujours de ça l'économie de gestes pendant l'interprétation, surtout parce que ces chanteurs étaient invités chez les familles. Il y avait un code de conduite et il ne fallait pas faire le show le jour de la fête.
C'est ça. Voilà.
C'est-à-dire le show, c'est le marié, c'est les invités. Mm-hmm. Le chanteur était toujours retiré, les musiciens aussi.
Hein. Mm-hmm. Voilà. On peut situer peut-être sa date de naissance, son décès, etc.
Oui, il est né en 1912 à Blida, à
Ouladiyah,
plus particulièrement. Et
il s'appelle Ashour Abdrahman, c'est son nom.
Voilà, son nom, son vrai nom, c'est Ashour Abdrahman.
C'est ça, oui.
Mais Ben Ashour, c'est
le nom d'artiste.
Le nom d'artiste, voilà. Et il a commencé, il est entré dans la scène musicale à partir de 1925, déjà en 1927, il était dans l'association Edabia qui venait juste d'être créée.
Voilà.
Voilà, et avec un grand nombre de musiciens à l'époque.
Les noms, il y avait des noms.
Il y avait des noms, voilà, bien sûr. On peut citer Boualem Stamayro, de son vrai nom, Boualem Mouzeri.
Stamayro qui est un peu le...
C'est la déformation de maestro, voilà, maestro, déformation phonétique de maestro. Mm-hmm. Et puis, il a eu la chance d'avoir connu Hadj Mejbel. C'est grâce à Hadj Mejbel, un petit peu, qu'il a propulsé pour qu'il devienne chanteur. D'après ce qu'on dit, c'était dans un endroit féerique, Zélez, c'est dans les environs de Sidi Kbir, donc l'Oued, les arbres. Et c'était là qu'il chantait comme ça, des chansons connues à l'époque.
Il chantait, comme on dit, sans chanter.
Sans chanter, voilà. Et Hadj Mejbel, il était un peu subjugué par la voix, donc il a invité à le rejoindre à l'association Louis Dadia, qui venait juste d'être...
1932.
Avant Adabia, 1927, et puis 32 avec Louis Dadia. Voilà. Louis Dadia qui a été créé par Moussa Khdaoui.
Oui, oui.
Moussa Khdaoui, de son vrai nom, Mohamed Khdaoui, qui est un homme de théâtre et un homme de culture. Et il est l'auteur de la pièce théâtrale Masaïb al-Faqir, les malheurs du pauvre.
Parce que cette association, il y avait toutes les formes artistiques, les branches artistiques existaient dans cette forme. Pourquoi? Parce qu'ils ont copié beaucoup d'associations qui naissaient à l'époque en faisant du théâtre, en faisant de la chanson féminine, en faisant de la musique andalouse, en faisant même de la musique populaire chaabi, etc. de l'époque. Alors, on est déjà à Blida dans les années 20.
Ouais.
Youssef.
Qu'est-ce qu'on peut dire, des années 20, Blida?
Il y a un personnage qui s'appelle Mahmoud Oulexidi Saïd.
Oui,
c'était le pôle de la musique.
Mm-hmm. Il était violoniste.
Le musicien titré de Malmayamna.
Il jouait avec Malmayamna.
Oui, au violon et à la cuitre.
Avec d'autres chanteuses comme Louisa l'Algéroise, comme... Il y avait d'autres chanteuses où lui-même faisait l'orchestration.
Il faisait l'orchestre, il avait enregistré, j'ai noté ici qu'il avait enregistré une série de disques en 1913 et une deuxième série de disques en 1921 qui ont tous disparu. Mmh. C'était des séries de Aroubi, plus de 30 ou 40 titres.
Ah.
Il était justement, et il a travaillé aussi sur l'Inqlabat, Istikhbarat aussi, il a fait tous les Istikhbarat. Il était accompagné à la mandoline par Yafil.
C'était un grand monsieur.
Il a laissé pas mal. Et son aura s'étendait justement dans toute la région, Cherchel, Miliana.
Alors que c'était pas du tout son métier.
Il était d'origine d'Alger.
À la Casbah, oui. À 17 ans, il a contracté...
On sait qu'il était asthmatique.
Asthmatique, voilà. Il a contracté. Le médecin lui a conseillé de s'éloigner de l'air marin. Donc, ils sont venus à Blida en 1887, quelque chose comme ça, 86. Ils se sont installés à Blida. Et là, il a pu réunir quelques jeunes musiciens, dont Hadj Mahfouz. Hadj Mahfouz, c'est son élève direct.
D'accord, voilà. Ouais. Et puis il a aidé, il a donné un souffle nouveau à l'orchestration de l'époque et tout ça. Parce qu'on le voit musicien dans toutes les grandes, surtout les disques de l'époque, zonophone, gramophone. Mmh, oui.
C'était un grand personnage. On a des extraits, justement, on peut saluer ici, à travers cette émission, tous les collectionneurs de disques qui nous ont permis, justement, d'écouter la voix de Mahmoud Oulsidi-Saïd, avec quelques rares enregistrements. On cite notre ami Ouel Abbas, et il y en a plein qui sont sur... Et puis, il faut dire aussi qu'il avait reçu une distinction à l'époque, c'était le centenaire, 1930. Il avait reçu la distinction en même temps que Ibn Zikri.
Ouais, il n'avait pas honte à l'époque de nous dire que c'était seulement une présence française. Ouais. Un siècle, centenaire de la présence française. C'est comme ça qu'on à peine si on peut le prononcer aujourd'hui. Mais allez, on continue. Donc, après Louis Dadia, il n'est pas resté longtemps, parce que Louis Dadia avait beaucoup de concurrence, il y avait beaucoup de chers, les Bengergoura, il y a beaucoup de monde à cette époque-là. Surtout les Bengergoura.
Déjà, en elle-même, l'association de Louis Dadia s'est arrêtée en 1939 avec la Deuxième Guerre mondiale, déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale.
Toutes les associations se sont arrêtées.
Voilà. Donc, ils sont éparpillés, dispersés. Ouais. Et il a formé son propre orchestre pour animer des soirées familiales.
Avec des musiciens qui sont connus par la suite.
Et les enregistrements de la radio à l'époque.
Et à partir de 1947.
Voilà.
Avec la création de l'ensemble de musique andalouse, ici même, pas dans ce lieu, puisqu'ils étaient ailleurs. Mais c'était la radio dans ces studios-là, et il y a jusqu'à maintenant tous ces enregistrements qui existent. D'ailleurs, c'est lui qui a obtenu le record de nombre d'enregistrements. À chaque fois, il se prêtait, il ne disait jamais non, il disait jamais j'étais fatigué.
Toujours disponible.
Toujours disponible pour enregistrer toutes les noubettes qui existaient, qu'il connaissait déjà.
Voilà. Et à travers sa voix, justement, il a fait aimer cette musique au large public.
À beaucoup de monde.
Même les néos, les profanes de la musique.
Ça a dépassé les frontières de l'Algérie.
Hein. Oui.
Comme nous autres. On peut citer la radio. Mais je connais beaucoup de gens qui, jusqu'à maintenant, ils ont toujours l'oreille à Dahmem Nachour et c'est tout ce qu'ils
cité aussi dans un roman de notre l'écrivain de Cherchel,
Madame Sari.
Un concert à Cherchel, je crois.
A été très apprécié à Cherchel.
Bien sûr, il travaille beaucoup à Cherchel. Justement, Blida s'est rayonné dans toute la région.
Jusqu'au moment où un Cherchellois l'a imité, alors là, à 100%.
Oui.
L'a imité à 100%. Et Smaïl Hakim,
qu'on salue,
puisqu'on parle de Dahmem Nachour, on doit obligatoirement parler de Smaïl Hakim, on salue. C'est un monsieur qui a fait beaucoup pour la musique andalouse à Cherchel. Plusieurs associations maintenant, ça a démarré, c'est grâce à lui. On le dit aujourd'hui, si bien que un jour, un éditeur malveillant, un éditeur comme ça qui cherchait à gagner de l'argent, a pris une bande originale de Dahmem Nachour et il a mis la photo de Smaïl Hakim et il a vendu à l'époque. Il s'est trompé puisque Smaïl Hakim a enregistré déjà des bêtes, mais on dirait carrément Dahmem Nachour. Et cet éditeur s'est trompé et il a vendu des cassettes. Bien, on va écouter, je pense, Dahmem Nachour a rendu célèbre, il était déjà fort dans le msadr dans le monde Ziden. Tahia Bikoum, c'est Sidi Boumdine Rhout qui est décédé à l'Arhmou en 1197.
Thank you. Allah.
Voilà, c'était Dahman Ben Ashour, la yirhamou, dans un psadar, dans le mode Zidan, intitulé Tahia Bikoum. Tahia Bikoum, elle est du Qutb Sofia, Sidi Boumdine, Rauti, le sauveur, comme on dit, qui est aujourd'hui, ben, il est d'origine d'Andalousie,
oui.
Et de Séville exactement, d'un petit village à côté de Séville qui s'appelle Kotiana. Et c'est un maître incontesté dans le soufisme.
Oui.
Il a beaucoup écrit, contrairement à ce qu'on pense. Il a écrit ses textes ont été utilisés dans la asana.
Wow.
Là, c'est bon.
Exactement. Mm-hmm. Dans toute la musique du Maghreb, il y a des extraits
si bien que ces textes ont été appelés Zajal Sofi.
Oui.
Ou là, plus tard, Qasida Zajalia. C'était toujours Sidi Boumdine Al-Ghouti. La yirhamou yirham koul ya salihin li khlawna hadha at-turat.
Il a tahiya bikum wa qad basharat bi qudumikum rihsaba.
Oui.
Qui chante à la fois comme istikhbar et comme et une salaf.
Exactement, puisqu'ils sont dans le, des maîtres étoffés de la poésie. Donc, voilà. Ils, c'est des candidats au istikhbar.
Tout à fait.
Oui,
voilà.
Oui, c'est vrai. Alors, Hamsadar Zidane, d'une façon, on l'a écouté d'une façon exemplaire.
Ah oui.
Que penses-tu de ça?
C'est une,
on le dit pour les gens qui ne le connaissent pas.
C'est une interprétation monumentale de
exquise
de Dahm Ibn Ashur.
On va dire tous les superlatifs.
il faut dire que ce texte, enfin ce Msaddar, a été enregistré depuis Sfinja.
Oui.
Dahm Ibn Ashur, on a des versions de tout temps. Mm-hmm. Mais sur cette même chaîne, dans les années 80, le maître Sadr Kiawil a expliqué un petit peu la mécanique de ce morceau. Et sa version, la version Sadr, reste la plus équilibrée de...
Ah, c'est ça. Et qui a dit?
Et qui a dit que bon, il faut avoir des phrases larges, c'est-à-dire qu'il y a Tahiyabikum. Actuellement, c'est-à-dire on coupe le début de Tahiya Bikum court, alors que quand on reprend Tahiya Bikum, la deuxième Tahiya Bikum, voilà. Ces phrases longues.
Il y a Youssef, il te faut une orchestration et puis on s'engage.
C'est des phrases longues et tout ça a été expliqué par le maître Cheikh Sadr Kiawi.
Voilà,
et c'est pour dire, c'est-à-dire ça fait déjà 40 ans que ce morceau ne veut pas évoluer. Pourtant, son codage, si on peut dire ça, pour sa structuration, a été déjà exposé il y a 40 ans.
Déjà.
Donc, pourquoi les musiciens ne veulent pas faire cet effort, justement, d'améliorer l'existant, comme disait Cheikh Sadr Al-Ahmad.
Juste pour l'information, Tahiya Bikum se chante dans le mode Hassine et dans le mode Dil.
Le Zidane reste le canon d'interprétation avec le Hassine.
Oui.
Par contre, la version d'Il, c'est une contrefacture. En réalité, la mélodie qui sert au Tahiya Bikum dans le d'Il ne correspond pas au morceau. Ça a été ajouté au début du XXe siècle.
Ok, d'accord.
C'était une sorte de contre-pied. Et la mélodie qui rentre, c'est-à-dire le texte qui est adapté à Tahiya Bikum, c'est Qad Basharat Bikum
al-Saba.
C'est lui qui entre dans le moule de la mélodie et d'accord. Pas Tahiya Bikum. D'ailleurs, les gens doivent le ressentir quand ils chantent. Et ça a été exposé en 2008 à Béjaïa, justement, ce sujet. Voilà.
Mais le Sadr Kiawi reste aussi l'un des meilleurs interprètes d'une façon générale de la Sana'a, mais particulièrement de Tahiya Bikum.
De Tahiya Bikum, c'était un monument.
On est aujourd'hui à Blida, on rend hommage à Dahm Ibn Ashur. Tahiya Bikum est également excellemment interprété par...
Oui, ça reste une pièce d'anthologie.
Absolument.
Reste un médicament.
Un médicament, un remède.
Et justement, un remède, et pour Blida, justement, médicament, remède, musique, c'est l'occasion aussi de rendre hommage un petit peu à Abdelhamel Aziz et France Fanon.
Les fleurs
dont aussi. C'est en 2025, c'est le centenaire de la naissance de France Fanon. Et il y a eu des expériences justement à Blida, à l'hôpital psychiatrique.
C'est comme ça qu'Abdelhamel Aziz a été recruté chez France Fanon en 1952.
Toute une équipe qui a mené des expériences justement dans le cadre thérapeutique en utilisant la musique. On peut dire que Blida est à l'avant-garde de la musicothérapie.
Elle a été pionnière. En Algérie, elle a été pionnière. Et c'est pour cela que l'expérience a réussi. Et c'est pour ça que France Fanon demande à Abdelrahman Aziz d'étoffer l'encadrement à l'époque musicale. Et Ahmar Lachab est parti. Il a fait une expérience avec eux aussi.
Abdelrahman Aziz qui avait une grande formation. C'est une très bonne formation.
Et à cette époque, en 1952, Abdelrahman Aziz était la grande star, comme on dirait aujourd'hui. Bon, je ne citerai pas le nom. Oui. Mais les grandes stars qui remplissaient des stades. Abdelrahman Aziz, on le dit aujourd'hui avec des mots, mais c'était vrai.
Abdelrahman Aziz.
beaucoup le vivre à l'époque.
C'était une diction, une diction parfaite,
exceptionnelle,
un rythme bien posé,
exceptionnel.
Jeu de la guitare parfait également,
absolument. Et puis par la suite, il est devenu enseignant. Voilà, il y avait un centre culturel, je pense, qui s'appelle Ben Marach, comme un café à Blida. Et il a sorti beaucoup d'élèves. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi, mais il a fait une formation musicale assez conséquente. Et aujourd'hui, beaucoup de gens le citent avec beaucoup de plaisir et puis surtout de reconnaissance envers ce monument de la musique algérienne. Quand on dit musique moderne, on cite tout le temps Abdelrahman Aziz comme étant la fleur un peu de la musique moderne, l'Asri à l'époque, avec les grands noms comme Amraoui Missoum, comme Jamel Badri, qui est également un Blidéen, qui est mort aux États-Unis à l'époque. Bien. Revenons un peu sur terre. Les autres noms qui ont fait Blida, parce qu'on est à Blida, oui. Et puis on parle de grandes personnalités de la musique andalouse, comme Hajj Mnour, par exemple, Hajj Tounsi, Mohamed Ben Gurgoura, Mohamed Chérif Mohamed Ben Gurgoura et Mohamed Hajj Mohamed, le père
le père de
Mustapha, le père de Sid Ali, le grand-père de Sid Ali. Oui. Les autres.
Il y a des noms quand même.
Beaucoup de noms à Blida.
Il y a l'Arbi Ibn Ashour.
L'Arbi Ibn Ashour.
Très, très bien.
Oui, il avait une très belle voix.
L'Arbi Ibn Ashour qui était le maître de Belkaïd Abdelghani.
Oui, il le cite.
Il le cite très souvent.
Il joue avec lui, il accompagne au violon.
C'est ça.
Dans les fêtes familiales.
On disait que c'était un vrai troubadour qui prenait sa guitare et
L'Arbi Ibn Ashour.
L'Arbi Ibn Ashour. Guitare est débarqué sur Alger.
De lui aussi s'appelle Ashour, l'Arbi.
Non, Yahish Ashour.
Yahish
Ashour. Enfin, il y a un lien parenté parce qu'ils sont tous de la Dirige. Donc, il y a un lien parenté entre l'Arbi Ibn Ashour et Ibn Ashour. Voilà.
C'est-à-dire, Ashour, Ibn Ashour, à l'origine, quand la colonisation s'est bien installée ici, ils ont inventé l'état civil et ils ont commencé à charcuter les familles. C'est comme ça qu'ils appellent Adawah Ibn Ashour, Idr Dou Ashour, des fois même le même nom, la même famille, c'est trois ou quatre noms différents. Comme ça, pour faire deux, trois générations après, que la société se désagrège. Et c'était, ils avaient presque réussi. Justement, la solidarité familiale, la solidarité de, parce que nous sommes d'origine tribale, etc. Donc, l'union, les gens se sont reconnus comme ça, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts.
Heureusement.
Alors, revenons à la musique.
Oui, on peut citer également Hamid Bouchem.
Oui.
Qui était violoniste et pianiste à la fois. Il était fondateur de l'association Lui dédiée en 1932. Et à l'époque, déjà, il était notaire, Hamid Bouchama plutôt. Oui. Et il chantait. Il avait un programme à lui. D'ailleurs, on a pu trouver quelques cananiches, c'est-à-dire des cahiers avec sa plume. Donc, lui-même. Et il y avait également le père de Zerour Mourded. Il était violoniste également. Et il est fondateur.
Je vais te citer un autre. Qui a laissé une trace importante. C'est Cheikh Direr.
Oui, Cheikh Direr. Tlemcenien
d'origine. Il est arrivé à Blida pour animer, je crois, une cérémonie familiale. Et ce soir-là,
Il a demandé à ce qu'il...
Un regard.
Oui.
Il a suffi d'un regard qu'il est resté à Blida. Il est mort à Blida.
Oui.
1925.
Il y a un autre personnage, l'auteur de la fameuse Qasida, Yamin Achad Djouf, qu'on partage. C'est de son vrai nom, Mohamed Hassabat. Il est connu par
son nom, c'est Ahmed Hassabat.
Voilà. Il était... il a fait ça, mais il chantait l'Andalou.
Qui a été reprise plus tard par
Rachid Nouni, puis
Rassi aussi.
L'Airhamou. Voilà, il y a beaucoup de noms quand même qu'on peut citer.
Mais il faisait de la musique andalouse, Cheikh Hassabat.
Oui, il faisait de la musique andalouse. Mais il est resté, en fait, devenu connu à travers la poésie.
C'est ça.
Que tout le monde a chanté.
Qui a beaucoup de succès, oui. Zid, il y a encore d'autres. Hachtounsi.
Hachtounsi, oui. Oui.
Hachtounsi qui était très très modeste, il était un fonctionnaire à l'époque.
Oui, alors il a.
Nous l'avons connu, non?
Oui.
Tu me l'as présenté un jour. Voilà.
Il a même fait une émission Meir Hassin de
oui,
son livre.
Oui, il est venu avec moi, oui, oui. Donc c'était un ancêtre de, de Meir Hassin à l'époque.
Voilà. Hachtounsi, il avait une voix qui ressemble à celle de Hadj Mahmoud. D'ailleurs, quand on l'écoute, on ne peut pas faire la différence. Mmh. Tellement il imitait parfaitement.
Et puis Hadj Mahmoud qui s'est spécialisé dans le Madih Dini, dans le Jed, dans le...
Oui.
Il a eu une autre destinée, en plus de la musique andalouse, qu'il connaissait parfaitement d'ailleurs, qui a fait partie de la création de Louis Dadi, à tout oui, à fait, oui. Au début en 1932. Et ensuite, il s'est spécialisé dans le Jed.
Dans le Jed, également dans le Roubi.
Oui.
Le Roubi, c'était très apprécié quand il chantait le Roubi. Le public présent, il lui demandait de chanter le Roubi. Oui, parce qu'il avait cette façon de... Cette voix, sa petite voix, il avait une petite voix, mais quand même, elle était très appréciée.
Fluette.
Il était conscient de cette voix et on rapporte qu'il avait dit « je ne veux pas prendre d'élèves, de tenir de classe ». Par peur que les gens vont m'imiter.
Ouais, mais Hachtounsi l'a imité. Il s'est un petit peu influencé par.
Il passait souvent sur Radio Chaîne 3.
Oui.
Mais c'était un spécialiste de Roubi aussi.
De Roubi, oui.
De Roubi aussi. Menken Adib Yahtel.
Oui.
Bien. Alors, Abdelkader Ben Mohamed, c'est ça le poète de ta Menken Adib Yahtel.
Oui, Abdelkader Ben Mohamed.
Toujours de Blida.
Non. Le poète qui de Blida, c'est Mohamed Belkhdar.
Ah, Belkhdar, d'accord.
Oui, il est décédé en 1896, enterré au cimetière de Sidi Kbir, à quelques mètres de la sépulture de Sidi Ahmed Kbir.
Pour revenir un peu tout à fait au début de l'émission, on a parlé de Sidi Ahmed Kbir, on dit Moula Saka.
Pourquoi? Parce que les Andalous qui sont venus à Blida, c'était des Morisques, donc ils prononçaient le Qaf par Kef. Donc, alors, Houa Moula Saka, qui était hydraulicien de formation de son état. Donc, la population à l'époque, Andalouse, il appelait Moula Saka par distinction un petit peu à son statut.
À son métier.
À son métier. Mmh. Et de là. Alors que certains disent que Moula Saka, c'est les initiales de Sidi Ahmed El Kbir.
D'accord.
Non, mais c'est faux. D'après Amin Delay, qu'on salue, Saka, pour lui, c'est, d'après ses recherches, c'est le petit gay.
D'accord.
Le petit gay que les...
Saka. D'accord, ok.
Mais Saka, on ne va pas prononcer Saka. C'était le petit gay que les autochtones prononçaient le...
Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ne prononcent pas le Qaf. Au lieu de dire Qaf, ils disent Kaf.
Les Morisques, c'était comme ça à l'époque.
Mais même maintenant, ça existe.
Oui.
Il y a des noms qui. Des personnes qui ne prononcent pas le Qaf.
Voilà. Djidjel, par exemple, il prononce le Qaf.
On salue tous les Djidjeliens et on les salue aussi pour leur façon d'aimer le
chavir, de
la préservation de la musique. Voilà.
La
musique citadine, elle existe à Djidjel.
Oui.
Mais moi, je suis un fervent amoureux de cette ville et surtout de ses artistes et de ses anciens artistes. Et je me souviendrai toujours d'un nom. Son nom a été donné à la bibliothèque municipale de Djidjel, qui s'appelle Salah Abdelbaghi, qui est un shahid, un cheikh Chabi, on disait cheikh Hamou à l'époque. Et puis voilà, donc moi je lui rends hommage comme ça à chaque fois. Chaque fois, là où j'ai un moyen de le dire, je le dis, puisque c'est un shahid et il est mort le 18 mars 1962. Chauffe la représentation de cette date. C'était la signature des accords.
Une question peut-être à Monsieur Belarbi, spécialiste de Blida. Un mot sur les chanteuses, sur le chant féminin à Blida,
les femmes.
Il y a Seloua, il y a.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup. Il y a Nassima Chaban. Pour les professionnels, mais les amateurs, les amatrices, il y en a.
Elle avait à un moment donné une nièce. Nassima Chaban avait une nièce qui avait, qui avait commencé à chanter.
Oui.
Et ensuite, on n'a plus
revu. Son nom. Oui. Elle a disparu.
Et pendant le festival que j'ai eu dans lequel j'ai assisté, il y avait des petites chanteuses. Rada, par exemple.
Une
jeune fille qui était bien douée, mais on ne sait
plus. Elle a disparu.
Dans l'historique, avant le début du siècle, ou...
Mais si on élargit un peu à Boufer et que tout ça, on peut trouver des.
Oui.
Il y a quelques noms qui.
Lydia, avec. J'ai oublié.
Fatoma Blidia. Qui chantait tout, qui chantait Kabyle et qui chantait aussi Fatoma Blidia, qui chantait tous les genres.
Maïdé Bastardi, je crois, dans ses mémoires, cite certaines.
Fatoma Blidia, qui est né vers. Plutôt décédé vers 1920, comme ça.
On retrouve des noms comme ça dans la littérature. Des gens qui écrivaient sur la ville et tout, qui citaient quelques chanteuses féminines.
Très bien, on va marquer une pause. On va rester avec Tahma Ben Achour, allez, parce qu'on a reçu beaucoup de gens qui nous disent laissez-nous Tahma Ben Achour. On va l'écouter dans un darj qui s'intitule Meta Nestarihou.
La 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 la
Voilà, nous sommes dans le Nsraf, on est arrivé dans le Nsraf du mode toujours Zidane. On a bien écouté le Darj Metan Stereo. Et puis nous sommes maintenant dans un Nsraf qui s'intitule Kamil Al-Ma'ani. Nous sommes toujours avec l'émission Maya Hassine de la radio algérienne et la chaîne 3. Bien sûr, il faut toujours le dire. Il y a avec moi Youssef Toibia dans Maya Hassine. Également, notre invité aujourd'hui, le connaisseur de l'histoire de la ville de Blida. Et puis nous sommes en train de parler de Blida et puis même d'ailleurs. Et nous restons toujours avec Mohamed Belarbi pour parler des personnalités qui ont fréquenté Blida. Je parle des Mahidine El-Khal, des Hajj Jaidir, des Chetan, Mustafa Qazdali, tout ce monde-là qui ont fréquenté et qui ont donné un plus à la vie musicale de Blida, surtout dans la formation.
Oui, tout à fait.
Oui, oui.
Mahidine El-Khal, il venait tous les dimanches pour enseigner à l'Uidadiya, pour diguer les noubates et tout, jusqu'à 1949. Cessation de l'activité de l'association de l'Uidadiya. Mmh. Mais
39. Avec 39. Le déclenchement le 9 septembre, je pense, bon. Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais Ahmed Nacho, avec la cessation de l'activité de l'association, il a été chez Maître Mohamed Al-Hassad, de son vrai nom Mohamed Al-Bahar, il y allait avec, en compagnie de Mohamed Bengelgoura, qui était son ami, bien sûr, et il prenait des pièces musicales qui n'étaient pas très connues. C'est chez Mohamed Al-Hassad,
Et on dit dans le monde musical d'Andalus, on dit que Mohamed Ben Guergoura a beaucoup pris de Cheikh El Hassar.
Beaucoup, beaucoup même. D'ailleurs, il prenait la pièce musicale avec une couitra qu'ils emmenaient avec eux sous l'Akshaba. Bon, ils allaient par train. Et sur le chemin de retour, il répétait la pièce qu'ils avaient apprise chez Mohamed El Bahar. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils ont pu quand même préserver quelques pièces musicales qui n'étaient pas très, très chantées à l'époque. Mmh. Je cite, par exemple, « Raqatlan al-Khamru fasaqaynaha ». Et d'ailleurs, lui dédiant
a eu le
premier prix en 1996, grâce un petit peu à cette pièce qui n'était pas très connue.
Ouais. Voilà. Il y a beaucoup à dire justement sur cette expérience qui est la plus marquante justement de la ville de Blida avec les Mohamed Ben Guergoura et Mustapha Ben Guergoura dans l'exhumation de pièces anciennes. Mmh. Pour présenter ça dans les festivals. Bon, avec du recul, on voit que ça, c'est une arme à double tranchant puisque pas mal de pièces sont sorties par la suite, déclarées comme du fraude ou des pièces authentiques.
Alors qu'elles étaient connues.
Alors qu'il n'y avait pas d'expertise justement sur ces morceaux. Mm-hmm. Il faut citer aussi dans la lignée de Hajj al-Basri, qui ont fait vraiment un travail critique et qui ont remis un petit peu sur la scène ces problèmes de découpage, la façon de chanter et tout, dans les années 80. Mm-hmm. On peut parler de ce sujet, justement.
Voilà, au moment où il a enregistré les... Enfin,
au moment où il avait enregistré, ils avaient essayé d'innover, pas d'innover, mais de critiquer l'ancienne façon et de proposer d'autres choses de façon de découper. Et notre ami Ben Damash connaît ce problème.
Je connais très, très bien la question.
Voilà la question, justement. Parce que des associations se sont scindées, justement, à cause de ce désaccord dans la façon d'interpréter tel ou tel morceau. Mm-hmm. Et avec Ben Guergoura et El Basri, le sujet est revenu sur la scène et justement, on se demande pourquoi les gens ont enterré encore une fois ce sujet.
Très bien. On a fait le tour. On reprendra, Inch'Allah, après, parce qu'il y a nos collègues de l'information qui vont venir. Et puis voilà, on va leur laisser la place. On va se retrouver. Et on va parler aussi de Mohamed Taubel, qu'on n'a pas cité. Pourquoi? Parce qu'on lui a consacré la seconde heure de cette émission, parce que c'est un véritable monument de la musique andalouse à Blida.